Bonsoir à tous et à toutes, tu es bien sur Radio Campus Paris, il est 21h01 et tu écoutes Au Pays des Rêves, l'émission qui te parle de musique électro, de ses actrices et de ses contours politiques un mardi par mois de 21h à 22h. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, il se passe beaucoup de choses en ce moment en lien avec le mouvement techno. on est un peu en retard, et sur les réseaux sociaux. Et on va en discuter aujourd'hui autour d'une table ronde avec nos invités. On va parler des nouveaux publics qu'on rencontre en soirée, des valeurs politiques de la techno et de l'évolution de ce mouvement. On va aussi parler de la soirée Beat for Lebanon, une nuit de musique électro en soutien au peuple libanais, de l'agenda des soirées de la semaine et de Ibiza, avec nos chroniqueurs Fabrice et José Louis. Le tout ponctué de magnifiques tracks qui, je l'espère, vont te faire plaisir et vont faire plaisir à tes oreilles. Et pour commencer cette émission, on va tout de suite écouter la chronique de José Louis.
Hello, hello, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous embarque dans un voyage au cœur de l'essence même de la nuit. Direction Ibiza, l'île mythique de la fête. Connue dans le monde entier pour ses soirées électrisantes, ses DJ de légende et ses clubs démesurés, Ibiza est bien plus qu'une simple destination estivale. C'est un véritable temple de la fête et de la musique électronique. Alors comment cette petite île des Baléares, autrefois simple refuge de pêcheurs, est-elle devenue la capitale mondiale du clubbing ? Pour comprendre ce phénomène, remontons un peu dans le temps. Dans les années 1960, Ibiza était surtout connue comme un refuge pour les hippies, ces derniers attirés par la beauté sauvage de l'île et la liberté qu'on y trouvait. Ils ont contribué à forger l'âme bohème et rebelle d'Ibiza. C'est à cette époque que l'île commence à attirer les esprits libres, les artistes et les créatifs qui posent les bases de ce qui deviendra plus tard une culture festive unique en son genre. Dans les années 80, Ibiza connaît un véritable tournant. C'est là que les premiers clubs voient le jour et que la musique électronique commence à se diffuser. Des clubs comme l'Amnesia, le Pacha ou encore le Q, devenus aujourd'hui le Privilège, deviennent les premiers temples de son électronique, attirant des milliers de touristes chaque été. Les DJ européens s'y retrouvent pour jouer leurs nouveaux morceaux et petit à petit, Ibiza se forge une réputation de lieu où la fête est sans limite et la musique omniprésente. Mais c'est dans les années 90 que l'île atteint ses heures de gloire. La musique house, techno et trance prend une ampleur internationale et des DJ de renom comme Carl Cox, Sven Zweit ou encore Paul Oakenfold font d'Ibiza leur résidence estivale. Ce sont eux qui ont construit la légende d'Ibiza, avec des sets légendaires et des soirées qui attirent les foules du monde entier. L'Amnesia, le Space deviennent des lieux emblématiques synonymes de liberté et d'évasion. Aujourd'hui, Ibiza reste incontournable, mais elle a bien changé. Les clubs iconiques sont toujours là, le Pacha avec son atmosphère glam et son line-up toujours plus haut de gamme, l'Ushuaïa avec ses fêtes en plein air spectaculaires et le High Ibiza qui a pris le relais du légendaire Space fermé en 2016. Les DJs d'aujourd'hui comme Martin Garrix ou encore Black Coffee y résident chaque été, mais la scène a évolué. Les soirées sont devenues plus organisées, plus lucratives et l'île elle-même fait face à des défis, notamment pour gérer les flux touristiques et l'impact sur l'environnement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Ibiza conserve une énergie et une magie inégalables. Des soirées mythiques comme la Circo Loco ou le DC10, où l'on découvre la crème des DJ underground au spectacle époustouflant de l'Ushuaïa, où tout est mis en scène pour offrir une expérience sensorielle totale. Ibiza reste un rêve pour les amateurs de musique et de fêtes du monde entier. En plus de son ambiance festive, Ibiza est également un joyau naturel. L'île offre des paysages à couper le souffle avec ses plages de sable fin, ses criques cachées et ses eaux cristallines. Les couchers de soleil à Ibiza sont légendaires, notamment depuis des endroits comme le Café Del Mar ou le Sunset Ashram, où l'on peut admirer le soleil se fondre dans la mer. Les collines verdoyantes et les champs de fleurs sauvages ajoutent une touche de sérénité à cette île vibrante. Sans transition, l'agenda de vos prochaines soirées. Le 15 novembre, Pichsika, Anxiela, Nicolina, Kruk, Mix, Sikoti and More. J'y suis arrivé. Au programme, un spot safe et accessible, un line-up du tonnerre du début à la fin et une technique impeccable pour une nuit qui s'annonce démoniaque, lui encore tenu secret. Deuxième soirée, Illusion First Anniversary au Cassie Raptor Alors, avec SNTS, Cassie Raptor ou Doruksen. Ce sera le samedi 16 novembre au Dojo de Paris. Préparez-vous à un marathon de 23h à 10h du matin en compagnie, je viens de le dire, de Cassie Raptor, Kara ou encore Desilis. Et enfin, à ne pas manquer, le vendredi 29 novembre, Cloche x Karina au Get Club Paris. Cloche suffit.
Merci beaucoup, José-Louis. Alors, on est donc en compagnie de Axel, Caro et Naomi du mouvement Front Électronique et avec Caroline, alias DJ Schneck, et Joseph, aussi DJ. Et aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui est très présent en ce moment sur les réseaux sociaux, au sein de la communauté techno, la démocratisation massive de ce mouvement et les nouveaux publics que ça amène. Alors, pour expliquer un peu mieux aux personnes qui ne seraient pas au courant, on a de nombreux et nombreuses actrices du milieu techno qui dénoncent en ce moment un nouveau public dans les clubs et dans les soirées qui n'aurait aucune idée en fait des valeurs et des engagements de ces soirées. Et beaucoup de personnes s'inquiètent de l'arrivée d'un public qui en fait ne serait pas du tout en phase avec les valeurs politiques d'origine de la musique électro et donc s'inquiètent de ne plus se sentir safe en soirée. Alors on va revenir dans un premier temps sur l'histoire de la musique électro et de la techno, des free parties, etc. Et on va essayer d'aborder plusieurs sujets qui ont fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux dernièrement. Donc pour revenir un petit peu aux bases, je pense que c'est bien si on rappelle l'histoire de la musique techno. Donc elle est née dans les années 80 à Détroit aux États-Unis, au cœur d'une ville qui était frappée par la désindustrialisation et le chômage massif. Et dès ses débuts, la techno, elle a été bien plus qu'un simple genre musical. Elle s'est imposée comme un mouvement profondément politique et offrant aux personnes marginalisées un espace d'expression et de liberté. Et ensuite, cette techno, elle s'est propagée dans des lieux alternatifs comme des entrepôts ou des espaces industriels où se trouvaient à ce moment-là des personnes exclues des milieux culturels traditionnels comme les minorités ethniques, les LGBT et aussi les jeunes révoltés. Et dans les années 90, ce mouvement, il a trouvé un écho particulier en Europe, notamment en Allemagne avec la chute du mur de Berlin. Et les raves et les free parties de l'époque prônaient l'égalité, le partage et le refus des hiérarchies sociales. Et aujourd'hui, bien que le mouvement il ait évolué et il se soit popularisé, cet héritage politique il reste vivant pour de nombreux et nombreux artistes et collectifs qui continuent de défendre une techno engagée, inclusive et résistante à la marchandisation et aux normes dominantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole peut-être pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les DJ sets, dans les soirées et qu'est-ce qui est reproché à ce nouveau public?
Bonjour tout le monde.
Ah, salut Joseph. Oui, Joseph est au téléphone avec nous. Il ne peut pas trop savoir qui parle, qui ne parle pas. Le pauvre, il ne nous voit pas, mais on t'entend, tout va bien.
Ok, ça marche. Bah, je laisse peut-être commencer Caro. C'est elle la première à s'être exprimée sur le sujet.
Ah, elle t'entend pas, Caro, t'entend pas.
Il t'invite à commencer à parler en fait, du sujet.
Moi, ça m'allait très bien, c'était Axel qui commençait.
Allez, vas-y, Axel. Okay. Vas-y.
Je pense que ce que tu as résumé, c'est un petit peu ce truc-là, c'est d'avoir un public qui a des comportements qu'on peut décrire comme problématiques, notamment par rapport aux valeurs de base du mouvement, mais en fait, en termes de société, tout simplement, on pense aux attitudes masculinistes, virilistes, les jeunes hommes torse nu, tout musclés et tout suants, qui se collent absolument à tout le monde et qui occupent un espace qui est un espace commun et dont ils prennent une grande partie, en fait, et qui ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils prennent toute la place. Donc, ça commence un petit peu par ça. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec tous les gens du Front électronique. C'est aussi cette problématique d'un public qui n'est pas averti de pourquoi la musique électronique et les soirées techno notamment, ou les free parties, mais ça concerne moins les free parties, je pense, cette problématique-là. Pourquoi ces espaces de liberté ont été créés et pour qui, en fait.
Ouais.
Et le fait que ces personnes arrivent et viennent consommer un produit et ne se préoccupent pas, en fait, de perpétuer quelque chose ou de protéger un espace, vu qu'eux ne souffrent pas de biais d'oppression, en fait, tout simplement. Hein. C'est un sujet dont on parle beaucoup vis-à-vis de ce cliché de terme de 6-7, d'homme 6-7, mais en fait, oui, c'est typiquement des personnes qui ne subissent aucune oppression et qui vont dans des espaces de liberté qui occupent tout l'espace et qui mettent en péril aussi cette liberté.
Alors les hommes cis-het, c'est cisgenre et hétéro, pour celles et ceux qui ne sauraient pas au cas où. Mais est-ce que vous pensez que c'est logique en fait, qu'on s'attende à ce que ces nouveaux publics adhèrent de base à ce qu'est le mouvement techno, le mouvement électro à la base, ou ça serait plutôt aux artistes aussi de peut-être mener ce mouvement en voulant avertir les gens, déconstruire les choses, dire voilà, si tu viens en soirée techno, il faut en fait que tu adhères à telle ou telle chose, etc.
C'est une question qui est très compliquée. Parce que il y a plein d'actrices qui pourraient faire plus de choses pour ça. D'une part, les lieux qui pourraient communiquer sur ce qu'ils attendent de leur public, les collectifs qui organisent les soirées et qui pourraient communiquer pour rappeler les valeurs que le collectif prône. Par exemple, je ne sais pas si ton collectif s'affiche comme étant ouvertement queer-friendly, qui rejette toutes les agressions racistes, validistes ou la grossophobie, enfin toutes sortes de discriminations. Pour moi, il faut vraiment le rappeler régulièrement pour être sûr que les personnes qui viennent à ta soirée, si jamais c'est des personnes qui ont des comportements problématiques, le savaient en avance et du coup agissent en toute connaissance de cause en se comportant comme telles dans la soirée. Donc il y a cette part d'éducation de la part des collectifs. Après, c'est pas toujours facile de le faire en tant que collectif. Il n'y a pas à chaque fois une seule entité qui est visée. C'est un travail d'ensemble. Je pense que, comme tu disais, les artistes ont un grand rôle à jouer aussi. Je comprends qu'on puisse être très frileux à prendre la parole et se mouiller entre guillemets politiquement. C'est aussi le choix de certaines, mais je vais le redire, mais on a un peu le public qu'on mérite entre guillemets, au sens où si toi tu veux pas mixer pour des mascus hétéro virilistes potentiellement droite voire extrême droite, si ça t'intéresse pas de mixer pour ces personnes-là, dis-le haut et fort en fait, que ce n'est pas le public que tu vas voir en face de toi, que ça ne t'intéresse pas de jouer pour ces personnes, ça ne t'intéresse même pas que ces personnes payent de l'argent pour venir te voir en fait. Donc il y a aussi il faut arriver à prendre la parole en tant qu'artiste, et on sait que c'est pas facile parce que tu vas te dire, ouais, mais du coup, ça va me cataloguer comme une personne qui réagit tout le temps sur le réseau, qui est un peu vénère, ça va peut-être me priver de certains bookings. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste à avoir. Mais je pense sincèrement que quand c'est des sujets qui t'animent et que tu as à cœur, il faut vraiment oser le faire. Comme cela te permet, ça peut pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi en discuter avec d'autres actrices de la scène qui soient pas que des DJ ou des artistes, mais ça peut être les promoteuristes, des personnes qui sont graphistes, les régisseuses, en tout cas toutes les personnes du milieu, parce qu'une soirée c'est pas juste un DJ en face d'autres personnes. Et en ça, créer ou aller dans des cercles de parole ou juste, je sais pas, discussion informelle, lancer le sujet. Enfin, généralement, les gens ont des choses à dire, des témoignages, des trucs qu'on leur a racontés, des comportements auxquels elles ont assisté. Et ça nourrit aussi la réflexion, le partage. Je ne sais plus quelle était la question de base, du coup.
Non, oui, c'est vrai, c'est sur le rôle éducatif. Donc, tu as beaucoup parlé des artistes, mais est-ce que aussi les clubs ou les boîtes...
Ouais. C'est les premiers, même.
Ouais, les premiers, parce
qu'est-ce qui se passe en ce moment, justement
Merci, c'est gentil.
Il y a d'une part aussi messages.
Attendez, oui. Ouais, c'est bon. Caro, est-ce que tu entends Joseph?
Oui, je l'entends dans le casque.
Ah, ok, c'est bon, elle t'entend, ça y est.
Okay.
Vas-y, t'entend. Vas-y.
Moi aussi, j'explique ça d'une part où le message qui a été transmis au début, c'était un message léger. Mais en fait, ces personnes-là qui se retrouvent dans nos soirées techno aujourd'hui, c'est des personnes avant qui faisaient la fête sans réel engagement, qui allait plutôt en soirée et qui ne se prenait pas part justement sur des positions là qu'on est en train de discuter, et qui arrivent dans des endroits où eux, ils veulent juste faire la fête, et surtout qu'on leur a dit que c'était on fait ce qu'on veut, on est qui on veut, on accepte tout le monde, et qui se permettent un peu tout, et qui donc du coup n'ont pas du tout le recul de justement toutes les valeurs et ce que prône la techno. Et c'est le problème de quand les réseaux se mêlent d'une trend, et ben du coup ça amène beaucoup de monde sans que forcément les gens ils comprennent pourquoi ils sont là ou pas. Et moi c'est pour ça, moi je l'explique d'une manière comme ça, où là derrière t'as besoin d'avoir un travail de sensibilisation.
Ouais, carrément. Bah, on va reparler après avec le problème du kilomètre 25, etc. Mais Caro, tu voulais peut-être... Enfin, Caroline, pardon, il y a Caro et Caroline, mais tu voulais rajouter un truc.
Ouais, je suis assez d'accord avec Joseph. Après, pour rebondir sur ce qu'il dit, je pense que c'est aussi des personnes qui ne cherchent pas forcément à savoir quelles sont ses valeurs et qui n'ont aucune intention de s'adapter en venant, mais qui ont plutôt l'intention de faire en sorte que leur idée de la fête devienne celle de tout le monde, en justement en excluant les personnes qui, au final, sont, entre guillemets, chez elles, dans un milieu qu'on voulait, comme l'a très bien expliqué, qu'on voulait safe à la base. Et c'est pour ça que la question qui était sur la responsabilité des clubs, etc. Bien sûr que les artistes, ils peuvent prendre la parole et dire, et c'est au risque de se mettre une partie de leur public à dos et de, comme l'a très bien dit Naomi, d'avoir une image sur les réseaux sociaux qui peut paraître agressive. Les gens aussi, les collectifs peuvent faire, entre guillemets, le ménage chez eux, essayer de rendre les choses le plus safe possible, etc. Mais il y a quand même un vrai travail à faire sur qui est-ce qu'on laisse rentrer en club ou non. Et il y a des attitudes aussi qui ne trompent pas. Et je pense que du coup, la responsabilité première, elle revient aux orgas et aux clubs notamment.
Moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'en fait, que ce soit les collectifs, les artistes et tout, on parle de prise de risque, mais en fait, il faut savoir que ces gens-là font leur beurre sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on part d'un concept qui a été lancé, qui est quand même lié aux luttes sociales, c'est-à-dire que faire son argent sur les résultantes d'une lutte qui a été faite par d'autres et derrière saccager complètement ce truc-là et en faire son argent dessus... Ben, je trouve qu'il y a quelque chose qui est révoltant là-dedans, en fait. Et donc, dire que les artistes auraient une sorte les collectifs d'ailleurs, les lieux, qu'ils auraient une sorte d'impunité ou de droit de ne pas se mêler à la politique, ben en fait, si, parce que ce que vous faites est intrinsèquement lié à la politique. Vous faites votre argent dessus. Donc, en fait, ben, vous devez quelque chose à la scène.
Oui, complètement.
Et du coup, comment vous, en tant qu'artiste, vous gérez ça sur vos réseaux sociaux ?
Oula. comme l'a dit Naomi, c'est un jeu d'équilibre, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué de prendre la parole sur certains sujets. Bon, là, en l'occurrence, on parle des masculinistes, mais comme on le sait, il y a bien d'autres sujets qui mériteraient qu'on prenne la parole. Il y a une question de légitimité, bien sûr. Enfin, moi, je fais de la musique. Pourquoi je viendrais dire quoi que ce soit à qui que ce soit, sur quelle expertise ? Donc, c'est un peu compliqué de savoir là où je prends la parole. En ce qui me concerne, je le fais sous le coup de la blague parce que ça, c'est ce que je maîtrise, du coup. Et que je ne veux pas dire de bêtises sur des sujets que je ne connais pas. Et comment on gère ça ? C'est compliqué parce qu'on te fait payer le fait de prendre la parole sur certains sujets, d'autant quand c'est des sujets qui vont fâcher et que le rapport de force, il n'est pas équilibré, en fait, tout simplement. Et je voulais rebondir sur ce que disait Axel, c'est que en fait, il y a un enjeu lucratif maintenant, derrière la musique électronique. Maintenant, ce qui était un truc entre guillemets marginal avant, aujourd'hui, c'est du showbiz, ça rapporte de l'argent. Et je vois pas pourquoi les gens qui se font de l'argent là-dessus se priveraient d'une partie de leur public. Enfin, ça demande un réel engagement là-dessus, quoi. Donc, en tant qu'artiste, c'est encore plus compliqué de se positionner parce que, bien sûr, on a une image publique, on a un public. Enfin, on fait un boulot où littéralement on doit faire quelque chose pour le public en face. Et en plus de ça, on peut pas se permettre d'entrer en guerre avec certaines entités parce que juste notre vie, elle en dépend aussi par la suite, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
C'est ce que j'allais dire aussi. Il y a, je ne sais pas si on m'entend. Ouais.
Oui, on t'entend.
Il y a aussi, je pense, des lieux ou quoi, ou autres, en fait, avec les subventions aussi par lesquelles ils vivent, en fait, où ils ont aussi un peu, je pense, du mal à pouvoir prendre position clairement. Et je pense que ça aussi, ça doit être un peu frustrant quand tu es à leur place. Ouais.
Parce que ça arrive qu'il y ait des clubs ou quoi qui vous... Enfin, vous, peut-être pas, mais d'autres, en tout cas, d'autres DJ ou quoi, qui ont déjà refusé de faire jouer un artiste ou une artiste parce qu'il ou elle avait telle position politique.
Alors, moi, pour mes collectifs, non. Après, en tant qu'artiste, quand j'ai débuté il y a 2 ans, il m'est arrivé de refuser de jouer dans des lieux que je savais pas safe.
Okay.
Parce que ça m'intéresse pas. Mmh. Et j'aurais pu accepter à l'époque, parce que quand tu commences, tu as envie de mixer tout simplement et de prendre un peu toutes les opportunités, mais j'avais pas envie de me construire là-dessus et... Ouais, ça m'intéresse pas. C'est un choix après, mais ouais.
Ouais, surtout que pour revenir sur ce que disait Caro avec les réseaux et notre rôle dessus, ce qu'elle disait, c'est que c'est hyper délicat car justement, on est sur les réseaux où ça peut très vite partir en live et très vite rentrer en conflit. Et c'est pour ça qu'il faut être vachement pédagogue, peser vraiment ses mots pour vraiment pas accabler cette population, ceux qui envahissent aujourd'hui un peu nos soirées et qui les dégrade. Et donc, juste faire comprendre que c'est du bon sens de faire attention à celui qui est, celui qui est à côté de toi et faire comprendre que mieux pour tout le monde, même pour eux. Donc, faut y aller vachement à tâtons pour, comme vous dites, aujourd'hui, il y a aussi des enjeux économiques derrière toute cette nouvelle génération qui sort en soirée et qu'il faut, du coup, faire ce travail de pédagogie, tout simplement, mais très calme.
Carrément.
Vas-y. C'est un truc qu'on s'était déjà dit avec le front électronique, c'est qu'est-ce qu'on entend aussi par... par nouveau public, est-ce que c'est nouveau en termes de générationnel, en termes de tranche d'âge, ou nouveau en termes de personnes qui commencent à accéder aux soirées techno qu'on peut qualifier en mainstream de maintenant, enfin faut pas avoir peur de le dire, ça a plus rien d'underground, si vous le pensez vous mettez le doigt dans l'œil. Donc est-ce que c'est des personnes qui sortaient déjà et qui viennent de découvrir la techno, donc qui ont peut-être je sais pas 30, 35, 40 ans et qui disent ouais, j'adore cette musique qui fait boum boum, c'est assez agressif, je me reconnais vachement dedans, je vais enlever mon t-shirt et transpirer sur le dancefloor. Ou alors c'est en termes de tranche d'âge, donc des personnes qui sont plutôt jeunes, je vais passer pour une boomeuse mais un peu style génération TikTok parce qu'on en parle beaucoup, mais
ouais, il faut en parler.
Les réseaux sociaux, tant mieux si on appuie dessus, mais et qui du coup pensent adopter les codes, en tout cas les codes d'apparence de la techno, mais ne creusent pas plus loin et du coup se fourvoient dans ce qu'est une soirée techno, en tout cas au sens où je pense qu'autour de la table, en tant qu'artiste ou programmatrice, productrice de soirée, enfin le sens qu'on en a.
Ouais,
quoi.
On est tous d'accord là-dessus. Je vous propose qu'on en parle juste après, parce qu'on va faire une première pause musicale, on va s'écouter Jumpin de Color 99. Et c'était Jumpin' de Color 99. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur... on en a un tout petit peu parlé, mais sur ce qu'on appelle les go-muscus et le débat autour de la scène techno qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux. Je vais juste expliquer pour celles et ceux au cas où qui ne sauraient pas, mais les go-muscus, c'est un terme qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui va beaucoup à la salle de sport et qui centralise vraiment sa vie et sa vision de la vie autour de ça, autour de l'apparence physique, etc. Et en fait, on voit en ce moment des personnes se plaindre que ces fameux go muscu auraient envahi le public des soirées techno. Et ça plaît pas à tout le monde, parce que dans un premier temps, c'est des personnes qui prennent beaucoup de place, tu l'as dit tout à l'heure Alex, qui se mettent torse nu en soirée, qui nous collent, qui hurlent, etc. Et dans un second temps, on a quand même ce rapprochement qui est fait entre l'ego muscu et le fait que ces personnes-là seraient principalement des personnes d'extrême droite, voire de droite, qui ne respectent pas ces fameuses règles de bienveillance et de respect qu'on retrouve dans nos soirées. Caroline et Joseph, vous en avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup pris la parole sur ça, sur ce sujet-là, sur les réseaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Je me lance, Joseph.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Alors, beaucoup, c'est un grand mot. Moi, il s'avère que j'ai juste fait une vidéo un peu
virale, en fait.
J'ai juste fait une vidéo un peu humoristique et le reste, ça a été de la défense aux multiples commentaires polis, bien sûr, et très respectueux que j'ai reçus suite à ça. Alors, je fais quand même un petit disclaimer parce que je pense que c'est quand même important. Il n'y a aucun body shaming qui a été fait et qui, j'espère, sera fait envers les go muscu. On ne critique absolument pas votre rigueur et qui rythme votre vie, tout simplement. C'est pas du tout ça. Ce qu'on dénonce, c'est un comportement qui est effectivement problématique et notamment en tant que fille ou en tant que personne LGBT ou minorisée qui se sent juste pas en sécurité avec des comportements comme ça. C'est des personnes qui sont donc évidemment imposantes physiquement, contre lesquelles on pourrait rien faire. C'est des personnes qui, alors, étonnamment, sont aussi très souvent masquées parce qu'elles portent des cagoules. C'est l'esthétique TikTok dont parlait Naomi tout à l'heure. Donc, c'est la cagoule, torse nu, danser avec des grands mouvements, etc. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations encerclée par ces mecs-là qui prennent littéralement un plaisir à voir que t'as un peu peur et à te mettre mal à l'aise aussi. C'est les mêmes qui veulent te faire boire dans leur bouteille. Si t'as un problème et que tu veux te plaindre de ton agresseur, tu dis quoi ? Il y a un mec musclé avec une cagoule qui m'a touché les fesses. Enfin, tu peux pas le reconnaître non plus. Donc pour moi, il y a aussi un souci d'être identifiable par rapport à tout ça. Enfin, encore une fois, la free party, c'est encore un autre souci. Hein, mais là, c'est par rapport à ce qui se passe en club. Et le débat a effectivement complètement déraillé parce que je me rendais pas compte qu'il y avait autant de personnes qui étaient prêtes à défendre cette communauté-là en expliquant que la teuf, censée être un endroit tolérant, devenait du coup intolérant parce que on refusait un certain type de personnes dans nos espaces de fête. Mais je voudrais juste conclure en disant que être tolérant, c'est pas être tolérant avec l'intolérance. Et que, en l'occurrence, bah, en fait, et pareil, il y a des gens qui m'ont dit tu craches sur une partie de ton public. Bah, je crache sur une partie de mon public qui rend mon public mal à l'aise, en fait, littéralement. Et tant pis si on se met des gens à dos comme ça. Mais justement, l'idée, c'est que tout le monde se sente en sécurité. Et bon, moi, ma vidéo était peut-être un peu maladroite parce que dite sur le ton de l'humour et que j'avais pas prévu que ça fasse foin. Mais voilà, et je laisse la parole à. Qui veut l'apprendre.
Ça fait écho aussi une certaine fragilité aussi de ces gens-là, juste.
C'est toi qui l'as dit.
Pardon, Joseph.
Non, y a pas de souci. Bah, en vrai, je te rejoins carrément, Caro, et j'aimerais juste faire un disclaimer que déjà, de une, c'est pas tous les gomuscus, et pour justement avoir beaucoup de potes aussi qui sont catégorisés dans cette catégorie, tout simplement, justement, ils ont honte d'être assimilés aussi à ces comportements, et donc, du coup, ils sont tous mis dans le même bateau. Mais si j'ai un truc à rajouter, car Caro t'as dit beaucoup de choses, c'est que ouais, aujourd'hui il y a cette culture où en fait ce qu'ils font à côté, où c'est aussi beaucoup de culture de soi, et que ça se ramène en soirée techno, alors que ça n'a rien du tout à faire ici de besoin de s'affirmer en soirée techno. Justement, là le but c'est qu'on ait un public qui fasse qu'un et où on fait attention à l'autre, et comme tu dis, ça déborde sur simplement ton cercle, et c'est tout simplement problématique. Et comme l'a dit Caro, on ne critique pas du tout le physique, on critique les comportements, et c'est des comportements qui viennent souvent de ces catégories de personnes. Donc c'est un vrai problème, mais ça demande juste pour moi un peu de compréhension et un peu d'empathie.
Mais à quel point du coup on peut ou est-ce qu'on doit contrôler qui participe aux soirées techno pour vous? C'est compliqué.
Déjà,
silence.
Non, mais en vrai, c'est tout bête, mais déjà, de une, enlever le port du. Arrêter de autoriser le fait que les gars puissent enlever leur t-shirt, ça, déjà, ça résoudrait déjà un gros problème. Et puis, même en termes de sécurité, tu le vois, enfin, tu peux. Tu, tu, comme en plus c'est des personnes qui sont assez imposantes et que généralement nous en tant que public, eh ben, on n'hésite pas à aller voir la sécurité pour dire c'est des personnes problématiques. Je pense que déjà si on osait plus aller voir du coup les personnels du club ou des orgas, je pense que déjà il pourrait déjà y avoir un tri de faits et ça pourrait en dissuader plus d'un de justement d'avoir ces comportements là.
Après, je suis totalement d'accord avec toi, mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça reste au bon vouloir du club. Parfois, en tant qu'organisateur, tu as très envie de virer certaines personnes et tu vas aller voir la sécu que tu n'as pas pu briefer parce que les briefer, c'est le club qui la paye, quoi, en gros. Et on va te dire, ah ben non, c'est notre public, on ne va rien faire. Donc, c'est aussi compliqué, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Dès qu'on voit ce genre de comportement... il faut aller le dénoncer, pas forcément intervenir parce que faut pas se mettre en danger non plus si t'es une personne du public et que tu sais pas trop quoi faire, mais oui le reporter absolument, ça il faut arriver à prendre la parole là-dessus.
Bah du coup peut-être qu'on pourrait parler de la vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux de personnes apparemment masculinistes hein, qui attendaient pour entrer dans le kilomètre 25, donc c'est un club de techno à Paris, et en fait ces personnes elles chantaient la Marseillaise et elles portaient haut et fort la croix de Lorraine qui est un symbole de plus en plus de plus en plus voilà détourné par les mouvements fascistes. Cette vidéo elle a fait pas mal de bruit je trouve perso sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez, enfin qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Ce qui est flippant là-dedans, c'est qu'on a eu, en fait, on a un crossover entre le masculinisme et, mais c'est lié, hein,
et
les mouvements d'extrême droite, sachant que on a eu beaucoup beaucoup ce débat-là sur notamment des groupes, des trucs comme ça, genre Technoflex et compagnie, sur ce sujet-là où on se faisait insulter de gauchiasse notamment, parce que on disait qu'en fait, c'est un mouvement de gauche créé par des, en fait, la techno, c'est quand même un mouvement, notamment une musique, mais aussi un mouvement qui a été lancé par des homosexuels noirs. Donc en fait, on peut pas plus faire intrinsèquement à gauche que ça. Je pense que là, vraiment, on peut pas faire pire, surtout dans un Détroit des années 80-90, qui était complètement délabré et tout ça. Je veux dire, il y a rien de droite dedans. Il y a vraiment, mais 0% de droite dedans. Donc en fait, derrière avoir le discours de gens qui viennent défendre ce truc-là en mode non mais la liberté de vivre ensemble et tout,
mais moi... la politique.
Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est un mouvement qui est politique. En fait, vous venez faire encore une fois votre beurre là-dessus. Mais en fait, si vous ne le respectez pas, vous êtes des ennemis quoi, du truc. Vous êtes complètement à contre-courant du truc. Donc, et puis souvent, c'est des gens qui sont très agressifs en plus dans leur façon de discuter. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la discussion. De toute façon, ils sont dans l'injonction. Quoi.
Ils n'ont pas, ouais, pas envie de comprendre. Ils n'ont pas envie d'être convaincus. C'est ça aussi.
C'est ça.
C'est que nous, on ouvre... Je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire qu'on ouvre notre porte. Nous-mêmes, je pense qu'on en fait tous partie. Il y a un moment où tu ne connais pas, tu entres et puis ensuite tu connais et puis tu t'adaptes et tu comprends et tu vois que ça te plaît et t'évolues. Et donc, dans ces cas-là, ça ne veut pas dire de changer ta personnalité, mais juste par contre... t'as la volonté d'être ouvert d'esprit sur ce que tu vas faire à tel ou tel endroit avec telle ou telle personne. Et en fait, il y a quand même une partie, donc une partie de ces gens-là qui n'ont absolument aucune intention ni de comprendre, ni de se remettre en question, ni de... Parce que j'ai entendu quelques discours, justement, Joseph, pour répondre à ce que tu disais, j'ai entendu quand même quelques discours de mecs qui se remettaient en question, qui étaient en mode, ouais, au début... Et ça, tant mieux, et justement, enfin, vous êtes les bienvenus parce que justement, bah, pour moi, c'est un espace de remise en question. On danse autrement, on se côtoie autrement, on pense collectif, etc. C'est ça qui est bien. Mais et c'est pour ça que, pardon, désolé, je me perds un petit peu, mais c'est important d'être pédagogue, mais c'est aussi important d'être ferme et de choquer les personnes qui n'ont pas envie d'être pédagogisées, enfin, qui n'ont pas envie de comprendre, en fait, tout simplement. Ouais. Bah, ces personnes-là, faut qu'on, enfin, elles sont juste pas les bienvenues, en fait. Et ça, c'est une réalité, par contre, même si ça peut paraître un peu dur, je pense.
Ouais, parce que. En plus, c'est des personnes qui sont privilégiées partout ailleurs dans la société. Mmh. Et genre, quand ils vont dire « Ouais, je crois que c'est un espace tolérant. »
Ouais, ça, c'est les plus grosses réponses qu'on a eues à ces vidéos.
C'est vraiment débilos, stupide, parce que tes privilèges, tu les as 24 heures sur 24. Ouais, et t'essayes, enfin, et tu les amènes de force dans des endroits où, justement, on essaye de créer des moments qui soient safe, où tout le monde peut... avoir sa place, et toi t'arrives au milieu comme ça et tu fais n'importe quoi, tu fais du bruit, tu cries, c'est n'importe quoi. Ouais.
Surtout que là on parle plus juste de crier, de prendre de la place, c'est que là on parle clairement d'attitude d'ultra-droite, quoi, d'opinion d'ultra-droite qui sont clairement affichées, et je reparle du groupe Technoflex et notamment des réponses que faisaient certains, ils défendaient très clairement le fascisme, mais très 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 clairement. Donc il y a quelque chose de très dangereux qui nous arrive. Moi, je voulais rebondir là-dessus juste pour dire aussi que souvent, c'est dans des événements à grande ampleur quand même en général au-dessus de 1000-1500 personnes. Mm-hmm. C'est très rare que ce type de choses arrive dans des événements plus petits. Souvent, c'est aussi des endroits qui sont dépersonnifiés dans des lieux qui n'ont plus d'ADN. Clubbing TV avait fait un post là-dessus, notamment pour parler du fait que maintenant, c'est les collectifs qui sont garants des atmosphères en soirée et plus du tout les lieux. Les lieux à Paris n'ont plus vraiment d'âme, à part certains, mais la plupart n'ont pas d'âme, n'ont pas de public et n'ont du coup pas de valeur à perpétuer. Ils doivent juste faire leurs chiffres et remplir et faire tourner le bar.
Je suis d'accord, surtout qu'en plus aujourd'hui ce public là il est aussi utilisé par les collectifs, il est aussi mis en avant pour attirer ce nouveau public aussi, parce que donc du coup ça attire plus de gens, donc il y a aussi comme tu dis une part de responsabilité des collectifs et des orgas qui les utilisent aussi de manière commerciale et pour faire la communication, quoi.
Ouais. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que on arrive à un moment où, je sais pas vous, mais en tout cas moi je sens une espèce de polarisation dans la musique électronique, au sens où on voit de plus en plus de comportements masculinistes et d'extrême droite qui accompagnent l'évolution de la société, la malheureusement. Et du coup ces personnes prennent plus en plus de place dans ces soirées, et la polarisation, je l'entends au sens où il y a tout un côté techno, et désolé je vais viser un style de musique en particulier, hard techno.
Elle a dit le H-word.
Voilà, je ne dirai plus, c'est promis. Mais voilà, en gros, la techno TikTok, quoi, qui montre une certaine image totalement décorrélée des valeurs, versus des vieux de la vieille de la scène électronique ou des actrices plus récentes comme nous autour de cette table, par exemple, qui ont à cœur les valeurs, qui connaissent l'histoire et qui veulent persévérer là-dedans et s'ancrer dans l'héritage et faire que les choses évoluent encore, que le milieu soit plus safe. Et du coup, il y a une espèce de dichotomie entre les deux, et il n'y a pas moyen de discuter. Tu as des grosses soirées et aussi des gros artistes, des grosses agences de management qui respectent rien du tout, qui s'en fichent totalement des préoccupations politiques, écologiques, de parité, enfin tout ce que tu veux. Et ça, c'est le visage aujourd'hui de la scène techno, et du coup le visage qu'on colle à la scène électronique en général, malheureusement. Du coup, oui, ces personnes qui vont dans des soirées mainstream, qui écoutent la plupart du temps, j'imagine que leur playlist Spotify, il n'y a que des artistes mecs dedans en plus. Enfin, ils ne vont pas se poser la question. Ils voient des représentations comme ça qui leur correspondent. Ils disent « Ah ben, cette soirée, elle est pour moi. » Et du coup, quand ils vont dans des soirées qui leur sont parfois moins adressées, genre moi, Halloween, j'ai mixé à une soirée qui est une soirée queer, dont le public est super, etc. Et il y a eu 2-3 problèmes comme ça qui ont rapidement été réglés parce que les orgas savent y faire. Ouais. Mais du coup, quand ce genre de personnes se déplacent dans des soirées qui ne leur sont pas adressées au départ, ils reproduisent les mêmes comportements et ils ne comprennent pas pourquoi. Et c'est là qu'ils disent « Ah, mais intolérance, c'est gnagnagna. » Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment une rupture aujourd'hui entre deux parties de la scène, en fait.
Ouais, c'est pour ça que je pense peut-être on arrive à un moment aussi où il faut différencier du coup le style musical propre et en fait le mouvement techno avec les valeurs
On va parler juste après la deuxième pause musicale, plus principalement des réseaux sociaux, etc. Mais du coup, on va s'écouter Pucker Up de Named the Doll. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're ready for this hit, pucker up, bitch. If you're
bitch if you're ready for the same.
Et c'était Pucker Up de Nemeth The Doll.
Ils sont à fond dans le studio là.
Bon, du coup, on va... il nous reste 10 minutes de discussion. Mais je voudrais du coup qu'on parle vraiment de tous ces artistes et actrices qui, de la techno là, qui mettent la faute vraiment sur les réseaux sociaux et qui dénoncent la manière dont du coup, le mouvement il a pris de l'ampleur déjà à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, ça dépend de nos avis. Et que ce mouvement il devient une mode centrée sur les stratégies commerciales au détriment de l'authenticité et des valeurs de la techno. Et que du coup la techno deviendrait en fait une tendance de consommation à cause de ces réseaux sociaux et perdrait tous ces symboles d'engagement. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Est-ce que c'est beaucoup plus profond? Est-ce que en fait le public au bout d'un moment est obligé de changer? Voilà, la culture ça, c'est tout le temps en changement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'effectivement les réseaux sociaux, ils ont eu, TikTok a eu un rôle là-dedans. Néanmoins, je pense que ce problème a été là depuis plusieurs années. C'est qu'avec TikTok, en fait, ça a mis le doigt dessus là récemment. Et après, je pense que les soirées, en fait, vivent le même phénomène qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est dans de la consommation hyper rapide. On voit même avec les sons qui sont en trend, où c'est juste des sons de 2 minutes qui pop et qui marchent beaucoup. Bah, dans les soirées, on voit la même chose, des DJ qui vont faire des sets juste d'une heure à balancer en fait banger sur banger. Et t'as plus ce truc où en fait t'as le temps, je sais pas, en 2 heures, voire plus, de pouvoir construire vraiment quelque chose. Et donc ça, je pense que c'est en fait similaire à ce qui se passe avec du coup les réseaux sociaux qui nous entraînent en fait à cette consommation vraiment super intense. Quoi.
Ouais. Moi, je suis aussi d'accord sur le fait que quand il y a quelque chose qui devient mainstream au-delà des réseaux sociaux, il y a toujours une polarisation des styles. Et on l'a vu dans d'autres phénomènes, que ce soit le sport ou même, par exemple, on peut prendre l'exemple du rap dans la musique, où avant, c'était un rap engagé qui, justement, défendait certaines valeurs. Et quand il y a des enjeux économiques et que ça devient mainstream, et bah, ça, le message, on le reçoit beaucoup moins. Et j'ai l'impression que malgré toute la sensibilisation qu'on peut faire, quand c'est des enjeux économiques et quand c'est les réseaux sociaux qui s'en mêlent, eh ben j'ai l'impression qu'on ne peut pas ralentir, enfin c'est difficile de ralentir le train, même s'il y a toujours un côté qui sera toujours revendicateur et qui sera safe. Car un jour, il faut se le dire, la techno ne sera certainement plus une trend et les seules choses qui vont rester, c'est ceux qui auront construit des vraies choses avec des valeurs. Et on voit aujourd'hui des projets, justement, moi je pense au club S1 qui ramène un nouveau souffle sur Paris. Donc il y a aussi ce phénomène-là pour moi derrière un côté mainstream.
J'allais dire que pour moi c'est quand même quelque chose de générationnel hein, parce que les problématiques moi, auxquelles je suis confronté je trouve directement elle est quand même liée à la Gen Z, désolé pour eux je vais faire le boomer mais on parle de TikTok mais en fait ça cristallise ce truc là en fait. Par contre on en parlait tout à l'heure, les personnes qui ont eu les discours pour moi les plus problématiques venaient plutôt de notre catégorie d'âge, les trentenaires, sur les groupes et tout ça, les gens les plus virulents, les plus extrêmes droites, les plus racistes, les plus homophobes, ça a été des gens d'une trentaine d'années.
Ouais, mais c'est parce que ça fait des années qu'ils attendent de pouvoir...
Exactement. Ouais, mais c'est ça, ils avaient peur avant et ils n'ont plus peur aujourd'hui. Ouais. Et je pense qu'il faut refaire peur aux fascistes.
Oui.
Très bon. Au contraire, m'aurait étonné.
Je voudrais rebondir sur un truc, c'est que ouais, t'as dit, je fais un petit peu le boomer, etc. En fait, je vois quand même beaucoup de gens se plaindre des réseaux sociaux et enfin, en fait, mon propos c'est de dire que oui, les réseaux sociaux, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Oui, c'est générationnel. Oui, on est habitué à consommer les choses rapidement. Mais je pense qu'on a aussi... Je pense que notre tort en ce moment, c'est un petit peu justement de se positionner comme des boomers. qui rejetons ce truc en fait dans lequel on est en disant bah c'était mieux avant et puis si et ça, et du coup je suis en train de comprendre peut-être aussi ce que les générations précédentes vivent en disant que c'était mieux avant parce qu'on a connu quelque chose qui n'est plus comme ça et que c'est en train de changer. Et plutôt que de se dire est-ce que c'est la faute à TikTok ou est-ce que c'est la faute à Instagram, va falloir faire avec en fait. Et c'est horrible, et c'est pour ça que Joseph a ses raisons et c'est un peu pessimiste, mais je suis d'accord avec lui. Je pense pas qu'on puisse arrêter un train en marche, mais par contre ce qu'on peut faire c'est peut-être lancer un autre train à côté à la même vitesse et essayer de que les gens changent de train pour venir avec nous quoi.
Carrément. Et justement qu'est-ce qu'on fait concrètement là maintenant?
Alors je sais pas.
Je sais que le front électronique propose pas mal
train.
De trucs.
Non, bah, lançons le train. Bah non, mais je pense que bah justement il faut que tout le monde comprenne qu'on fait partie d'un tout. En fait, c'est une responsabilité collective. Comme on va, du coup, c'est voilà, on l'a bouclé finalement. Mais il y a un petit peu. Bah il y a les clubs, il y a les artistes, il y a les collectifs, il y a le public aussi qui a le droit de dire bah nous on veut pas de ça et changer d'endroit. Il y a voilà tout le monde en fait doit un petit peu, je pense s'ouvrir sa bouche. Et justement, je pense que bah il y a un temps pour la pédagogie et puis il y a un temps pour choquer les gens aussi, et je pense que tout le monde devrait qu'il y a pas mal d'artistes qui devraient commencer à, et pas que les artistes d'ailleurs, mais juste à être eux-mêmes et à s'écouter et à refuser les choses qu'ils ont envie de refuser quoi.
J'avais fait une petite liste, enfin on avait fait une petite liste avant d'arriver sur ce qu'on peut faire. C'est des choses qui sont un peu pratico-pratiques. Déjà pour les clubs qui veulent faire la démarche et les collectifs qui s'intéressent, il y a quand même des assos qui existent, donc c'est bien de le rappeler, notamment Consenti qui fait le lien entre les VSS et la RDR, parce que enfin il faut aussi se dire les substances, l'alcool, etc. Ça joue sur les phénomènes de consentement, d'agression, etc. Y a des trucs cool qui sont faits par Au-delà du club et Réinventer la nuit,
je crois,
c'est ça. Elles ont mis vraiment énormément de ressources en accès libre. Il me semble qu'il y a une charte que les collectifs peuvent voir et partager leur public si jamais ils y adhèrent. Donc il y a vraiment des trucs sympas. Et je crois qu'elles font des cercles de parole de temps en temps pour les personnes sexisées. Enfin, en tout cas, c'est en mixité choisie avec plein de
minorités de genre, etc.
Plein d'actrices de la scène. Du coup, il faut s'encourager les unes les autres à y aller. Dans les cercles de parole, il y a aussi Venus Club que tout le monde connaît, qui organise de temps en temps le même style de rendez-vous. Et sinon, en tant que collectif, il y a les formations qui sont possibles pour savoir comment récupérer la parole de quelqu'un qui s'est fait agresser, quoi faire par rapport à des comportements problématiques, toxiques, etc. Nous, on aimerait bien, par exemple, démocratiser le fait que quand tu rentres dans une soirée, avant d'entrer dans la soirée, il y ait un relais du collectif, un ou une représentante qui te dise quelques mots sur la soirée. Notre musique, c'est ça. Nos valeurs, c'est ça. Ça nous tient à cœur. On ne veut pas de ces comportements-là. Et ça fait aussi le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la dépersonnalisation des soirées. Puisque avoir quelqu'un à l'entrée de la soirée qui représente un peu le collectif pour présenter les choses, etc., ça rapproche en quelque sorte la personne qui va dans la boîte, dans le club, c'est pas juste pour aller consommer un produit, la soirée étant le produit, mais tu comprends que y a des personnes derrière qui ont travaillé, il y a des artistes, il y a de l'humain quoi.
Je fais une toute petite parenthèse sur ce que tu dis, parce que je sais que par exemple c'est ce que fait la Too Much à l'entrée de ces soirées, Too Much ex Ladarude, qui alors eux mettent donc des personnes devant qui appartiennent au collectif et qui posent des questions à toutes les personnes en fait qui sont dans le club sur la soirée. C'est quoi pour toi le consentement, quels artistes tu viens voir ce soir, etc. Parce que justement ils ont subi ce phénomène d'être un truc un petit peu familial à commencer à devenir un très très gros truc, et justement pour filtrer un petit peu un nouveau public qui viendrait dans les soirées sans connaissance de comment il faut se comporter, et justement des règles élémentaires de base. Et ça permet aussi de filtrer un petit peu, de voir qui est là par hasard et qui sait un petit peu où il se trouve et comment il va se comporter dans la soirée. Même si ça prévient évidemment pas de tout...
Le risque zéro n'existe pas.
Je termine, c'est pas long, désolée. En tant qu'artiste, on a déjà dit plein de choses, mais pour résumer, si jamais tu peux ou si tu veux relier des témoignages, des articles sur ces sujets-là qui te tiennent à cœur, t'adresser directement à ta communauté. Les réseaux sociaux, c'est une grande maladie, mais c'est aussi très cool par certains aspects. Ça permet d'avoir beaucoup de créativité et du coup, avoir un autre moyen et des formes différentes de s'adresser à sa communauté. Donc pour ça, c'est cool et autant en profiter. Enfin, faut pas les laisser juste au masque, quoi. Discuter avec d'autres actrices de la scène électronique, ça on l'a déjà dit. Et en tant que public aussi, on a beaucoup rappelé que c'était quelque chose de collectif, la musique, et une expérience qui va de la scène à ce qui se passe dans la foule. Et c'est important aussi, je pense, en tant que public, d'en parler autour de soi, de lever le sujet, je sais pas, soirée entre amis, etc.
Ouais.
La parole, elle doit venir de partout, en fait. Voilà. Ouais.
Je suis d'accord. Non, mais c'est, en plus, c'est le sujet sur lequel je voulais rebondir, sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus de prise de parole et qu'il y ait plus, justement, de ce format de discussion, et avec tous les acteurs, que ce soit artistes, que ce soit les techniciens, que ce soit les gens de la foule, pour qu'il y ait cette discussion permanente, pour qu'on essaye de se mettre d'accord, qu'on essaye de comprendre l'autre et qu'on tente vers quelque chose qui ressemble quelque chose qui met des valeurs en avant et pas juste un produit marketing, quoi. Mais ouais, du coup, je t'en rejoins totalement.
Puis il y a peut-être que c'est plus facile de sensibiliser des gens autour de soi qu'on connaît directement, avec qui on a une approche directe, plutôt que de parler tout le temps au sens large. Il faut aussi qu'on balaye un peu devant notre porte et qu'on s'occupe aussi de ce qui est autour de nous directement.
Oui.
Mais est-ce que c'est des messages aussi qui pourraient être promulgués soit à travers de nouvelles plateformes ou par exemple, je sais pas, moi je pense aux newsletters des événements. Ça, il pourrait davantage le mettre en avant. Effectivement, c'est mieux de parler face à face. Mais vu qu'aujourd'hui, il y a énormément, et on parlait de la génération Z qui consomme du numérique à fond les ballons, à travers ça, de manière beaucoup plus habituelle, quoi.
Oui.
J'allais dire, pour certains, c'est le cas. Moi, je sais, pour mon collectif, un post sur trois pendant notre communication de soirée parle de chartes et de nos valeurs.
Ouais, grave,
après, ça dépend. Ouais. Ça, c'est l'engagement de chaque collectif, mais certains le font déjà.
Après, je sais pas si... Non, vas-y, Joseph, peut-être d'abord.
Ouais, même en parlant de ça, il y a... pas de souci. Justement, sur la prise de parole et justement personnifier un peu ces collectifs où on sait pas trop... Il y en a où on sait pas, ou même les clubs, on sait pas qui c'est qu'il y a derrière. C'est aussi un truc qui aide, même d'un point de vue marketing, alors qu'on veut prôner des valeurs. Quand on sait qui c'est qu'il y a derrière un projet, et ben on s'attache aux personnes et donc au projet. Et ça, c'est quelque chose qui arrive aussi aux États-Unis dans les entreprises incarnées. Et je pense que aussi avoir des collectifs qui sont incarnés par des personnalités fortes, ça pourra aider à transmettre ce message aussi. Donc je suis carrément d'accord.
Et en fait, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. La génération TikTok, je pense que TikTok, c'est une arme très puissante qui est très dangereuse, mais qui peut aussi être utilisée à des super fins. Et en fait, il faut jouer avec les cartes qu'on a dans les mains. Donc, moi, personnellement, je préconiserais plutôt justement d'aller. C'est horrible, sans vouloir faire la politicienne à deux ronds, mais on l'a vu avec les élections américaines. C'est une élection qui s'est jouée sur TikTok parce que tout simplement, les républicains ont été meilleurs et plus présents avec justement des figures d'extrême droite et des masculinistes très très fortes. Et il faut qu'on commence. À avoir des figures aussi un petit peu comme ça, même si c'est de la vulgarisation, même si c'est parfois sous couvert d'humour, etc. Je pense qu'il faut qu'on mette le pied à l'étrier là-dessus pour commencer à jouer avec les mêmes armes que les autres. Et justement, si c'est les jeunes qui aujourd'hui sont encore, non pas influençables, mais peuvent prendre encore une bonne direction dans nos espaces de soirée, qu'on essaie d'aller les chercher chez eux, quoi.
Ouais, ça.
Désolée, c'est un peu agressif de dire comme
non,
ça.
Non,
on va saouler personne par le callback, mais
voilà. En fait, ça marche pas. C'est là où tu vas toucher ce nouveau public potentiellement. Ouais, t'as raison.
Merci beaucoup à vous tous. Je suis désolée, j'aurais trop aimé qu'on continue de parler de ça, mais j'avoue qu'il faut qu'on rende l'antenne à 22h et c'est bientôt l'heure. Donc merci beaucoup à vous tous d'avoir participé, d'avoir discuté avec nous. Du coup, je t'invite, toi qui nous écoutes là, à aller checker les réseaux du Front Électronique, de DJ Schneck, de Joseph, de tout le monde. Il et elle publient énormément de posts, surtout le Front Électronique, j'avoue, mais engagé, et tu trouveras un max de documentation sur les sujets qu'on a abordés et sur d'autres sujets. Et puis bien sûr, je t'invite à aller checker le travail d'artiste de toutes les personnes qui sont autour de la table. On va poster des publications et des stories de notre côté, du coup vous pourrez retrouver les Insta un peu de tout le monde. Merci encore, on va écouter la dernière track de l'émission, c'est Tease Me de Amertume. Et c'était Tease Me de Amertume. Et pour terminer cette émission, on reçoit Fabrice dans le studio. Tu vas nous parler de la soirée Beat for Lebanon, pardon, prévue le 22 novembre.
Et ouais, effectivement. Salut Elodie, salut tout le monde. Ce soir, je vous emmène au Moyen-Orient, au pays du cèdre. Alors oui, je sais, vous allez me dire qu'ici à Radio Campus Paris, durant cette heure, on est au pays des raves. Mais vous allez voir, on peut être en même temps au pays des raves et au pays du cèdre. Je vous parle donc ce soir de la soirée Beat for Lebanon, en français un battement pour le Liban. On ne parlera pas de combat, mais plutôt de beat électronique et de battement de cœur pour le pays des cèdres. La soirée est portée par l'association Sard en partenariat avec Syrian Records. En français, donc l'acronyme de Sard, c'est l'association syrienne pour le soulagement et le développement. C'est une ONG qui intervient au carrefour du Liban, de la Syrie et de la Turquie. Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour aider celles et ceux qui sont victimes des violences au Levant. Au programme de la soirée, Charbel Haber, Noise Diva et Youssef Kekia. Charbel Haber ouvrira le bal avec ses musiques en provenance de la capitale libanaise. L'artiste est aussi compositeur et musicien, mais ne s'arrête pas qu'à la musique. Il travaille avec des comédiens du cinéma ou du théâtre ou encore d'autres artistes. Noise Diva, de son vrai nom Yara Saïd, prendra place sur l'estrade du set des Relais Solidaires. Et avec elle, on voyagera à travers son set. L'artiste vit actuellement à Amsterdam, mais de son métissage est syrien et néerlandais, découle un mélange des genres dans son œuvre. Elle mêle dancehall, R&B ou encore trap marocaine. Youssef Kekia va clore la soirée au programme un mélange des genres, une musique électro-folk avec des paroles en arabe. Ce natif d'Alep, en Syrie, s'est établi à Berlin, capitale de la musique électronique. De cette résidence a donné lieu une œuvre diverse et éclectique qu'on a hâte d'entendre. La soirée se tiendra le 22 novembre à 20h, le vendredi. Elle aura lieu au Relais Solidaire, 61 rue Victor Hugo à Pantin. Deux pas du canal de Lourcq, métro église de Pantin sur la 5. Et je vous conseille aussi fortement un autre événement, Blooms pour Syria, donc des fleurs pour la Syrie. Ce sera le 23 novembre, dès 18h le samedi, le lendemain.
Merci beaucoup Fabrice. C'est la fin de cette émission. Merci vraiment à tous les invités d'avoir participé. C'était génial. L'émission elle sera disponible dès demain en podcast sur Spotify et sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois pour la dernière émission de l'année. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.